Bonsoir à toutes et à tous, excellent début de soirée à vous qui montez à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Et si ce soir, au milieu de cet hiver, notre émission vous offrait un peu de chaleur, un peu de lumière, un peu de couleur, puisque dans quelques minutes avec notre invité, nous allons explorer, entre autres thèmes, l'orientalisme pictural à travers l'œuvre d'un pied noir, premier prix de Rome, totalement oublié aujourd'hui et qui pourtant, proche de nous, repose dans Lyon depuis 1964 au cimetière de Voutenay-sur-Cure. Il s'appelait Émile Aubry, mais on en reparle dans quelques minutes. Notre invité a, par la force des événements historiques, connu l'Algérie, où en treillis, appelé sous les drapeaux, il a effectué durant plus de 2 ans des missions au service d'une France, alors puissance coloniale en guerre, contre les indépendantistes algériens. Une situation dramatique qui a donné naissance à ce que l'on appelait alors pudiquement les événements d'Algérie ou opérations de maintien de l'ordre. On aura l'occasion vraisemblablement d'évoquer Jules Roy, Jean Amrouche ou encore le prix Nobel de littérature Albert Camus. Et il nous faudra bien ce soir, au cours de cette émission, revenir sur cette guerre d'Algérie, j'ose le mot, cette guerre d'Algérie qui a abouti à l'indépendance de ce pays en 1962. Et puis nous vous convions à un voyage, mais nous vous invitons également à redécouvrir l'orientalisme pictural un peu oublié et nous tenterons de voir quels sont aujourd'hui les liens qui unissent l'Algérie et la France, sans oublier de célébrer l'amitié sincère entre un Français, notre invité, et 2 Algériens dont il va nous parler ce soir devant le micro de Radion. Ces 2 Algériens, c'est Kader et Aziz. Et notre invité, c'est Gérard Calmette. Bonsoir Gérard Calmette.
Bonsoir.
Gérard Calmette, on vous avait reçu en octobre dernier pour redécouvrir l'écrivain de la nature et de la paix, Jean Giono, qui fait partie de votre panthéon personnel. J'invite d'ailleurs celles et tous ceux qui nous écoutent à aller réécouter cette émission qui est toujours disponible en podcast sur le site internet.
En pèlerinage, en quelque sorte.
Oui, exact. Alors, je vous présente un peu. Est-il encore besoin de présenter Gérard Calmette ?
Gérard Calmette, peut-être, je ne sais pas. Giono, certainement pas. Mais...
Alors, Gérard Calmette, après avoir vécu à Paris jusqu'à l'âge de 50 ans, vous avez travaillé dans le monde de la banque et dans une multinationale.
Oui, absolument, oui.
Vous vous êtes ensuite installé dans Lyon pour fuir l'ennui et la tristesse, oui, du mode de vie urbain. On ne va pas revenir là-dessus, on en a parlé suffisamment au mois d'octobre. Vous choisissez donc de vous installer avec votre épouse dans Lyon, à Collet, où vous nous accueillez ce soir. Et vous êtes l'auteur d'une 15aine d'ouvrages et vous vous êtes adonné avec talent à des genres littéraires divers, le roman, l'essai, la biographie et l'histoire. Vous vous êtes penché sur les vies de gens extrêmement différents, le poète Lamartine, Jules Roy, ou encore Giono, bien sûr, et Enrico Macias. Mmh. Enrico Macias, d'ailleurs, c'est peut-être le lien assez facile pour aborder le livre qui nous intéresse ce soir, parce qu'il faut le citer. Votre dernier ouvrage paru aux éditions de l'Armançon date de l'année dernière, c'est vrai. On a peut-être un train de retard dans Wagon Livre pour en parler. Néanmoins, l'actualité en ce début d'année 2013 a montré que la France restait proche de l'Algérie.
Oui.
Et puis, votre livre s'intitule « Kader Aziz Aubry de Vézelay à Béjaïa » et c'est signé Gérard Calmette. Mmh. Alors, ce livre, « Kader Aziz Aubry », c'était pour vous votre manière de mettre votre grain de sel dans cette actualité autour de l'indépendance de l'Algérie?
Absolument. Absolument, parce que, d'une part, bien sûr, l'Algérie, pour moi, c'est toute une source de souvenirs qui sont des souvenirs assez précieux, finalement, un peu vieux maintenant, mais très précieux. Et puis, d'autre part, ce mot d'indépendance a pour moi un écho exceptionnel. Je suis, en effet, un indépendantiste de cœur, de fond. Et je suis content que l'Algérie et recouvrer son indépendance ou les gagner, n'est-ce pas? Et je suis content qu'on célèbre aujourd'hui ce cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Car je considère que chaque État doit conserver son intimité, ses traditions, sa culture, sa langue, etc. Et de ce fait, ce pays, l'Algérie, qui n'avait pas encore été constitué sous forme d'un État, a acquis donc son indépendance, à la force du poignet, même plus que ça, et je suis content que ce pays soit indépendant. De la même façon, je suis content que la France soit indépendante et que l'Allemagne soit indépendante, etc. Ce qui, pour moi, est le gage d'une cohabitation, d'une coexistence entre les différentes nations. À mon avis, l'indépendance garantit, contrairement à ce que l'on dit généralement, garantit la paix. Je pense que c'est une famille aussi aime son indépendance. On aime conserver une certaine intimité. Ça n'empêche pas, au contraire, de recevoir des amis. On se serre à ce moment-là la main, on est content. Et puis on se dit au revoir, à la prochaine. On s'est rencontrés, mais chacun reste chez soi, dans ses habitudes, dans ses traditions, avec sa langue, etc. Voilà.
L'indépendance, c'est finalement aussi le respect de l'identité.
C'est le respect de l'identité, et je dirais c'est le respect de l'autre.
C'est peut-être aussi pour cette raison que votre ouvrage s'intitule « Kader Aziz Aubry ». Alors, Kader Aziz, ce sont des prénoms algériens,
absolument,
arabes, et Aubry, c'est le patronyme d'Émile Aubry, dont on va parler. Ce livre, c'est un étrange livre, finalement, parce que vous y parlez de vous. Il y a une part personnelle, un petit peu de vous.
Un petit peu de moi, oui.
Vous parlez aussi de ses amis arabes, algériens, Kader Aziz. Et c'est Aziz qui vous amène à vous pencher, à découvrir carrément, c'est même pas une redécouverte, c'est la découverte d'un pied noir qui est enterré dans le cimetière de Boutenay-sur-Cure, à quelques kilomètres du village où vous êtes installé, ici à Accolé.
Absolument. Et donc, effectivement, c'est assez étrange de découvrir ce peintre qui a eu une renommée internationale à l'époque, donc, puisqu'il a été quand même, comme vous le disiez, je crois, premier prix de Rome, il avait 25 ans, deuxième prix de Rome, il en avait 27, et puis qui est tombé dans un oubli absolument incroyable, qui est enterré à Voutenay, même à Voutenay. Bon, j'ai consulté, bien sûr, la municipalité de Voutenay, on sait qu'Émile Aubry est enterré à Voutenay, mais plus personne ne parle de lui dans la région. À Voutenay même, si vous demandez à un habitant de Voutenay, Émile Aubry, il ne connaît absolument pas, etc. Donc c'est étrange. Et en effet, ce qui est d'autant étrange, c'est d'avoir découvert, comme vous le disiez, ce peintre qui a eu une renommée très importante à l'époque, de le découvrir par le biais d'un Algérien, en quelque sorte.
Oui, parce que là, c'est quand même absolument incroyable.
C'est incroyable.
Vous êtes dans un bus à Paris.
Oui.
Votre voisin...
Pas n'importe quel bus, le 47.
C'est exact. Et dans ce bus, cette ligne 47, vous avez pour voisin un homme que vous identifiez comme étant d'origine algérienne.
Oui.
Vous le regardez. Il y a sans doute, à mon avis, une remontée de souvenirs de ce Gérard Calmette appelé du contingent obligé de porter l'uniforme en Algérie. Oui. C'était en 57.
C'était en 57. 56, 57...
Et là, cet Algérien qui est à portée de main, vous lui adressez la parole.
Oui, je lui adresse la parole.
Et pourquoi?
Mais c'est assez. J'ai cette habitude où je travaille, appelons-le comme on voudra. Mais j'ai cette habitude quand, dans un transport en commun, je remarque quelqu'un qui a les traits caractéristiques d'une personne du Maghreb, disons en gros. Je ne sais pas pourquoi, je me présente à lui, je vais devant lui, j'essaie d'engager une discussion, en espérant que cette personne est algérienne, d'origine, et puis, sans doute, c'est pour moi la manière de pouvoir parler de ce pays-là avec quelqu'un qui le connaît, bien entendu. Alors je m'approche le plus tranquillement possible, est-ce que vous permettez, je vous fais quelques mots, généralement je suis d'ailleurs bien reçu, la personne est un peu étonnée au début. Et puis une conversation s'engage, mais je vous en prie, que vouliez-vous me dire? Ne seriez-vous point algérien à tout hasard? Et puis je suis tombé en effet sur 47, sur quelqu'un qui était bel et bien d'Algérie, et qui m'a emmené ensuite très très loin, puisque je vous dis jusqu'à Voutenay en quelque sorte, alors que nous étions dans notre bus 47 et nous naviguions vers la gare du Nord. Il faut dire qu'il habitait dans la rue d'Oran, près de la gare, donc sans doute est-ce que déjà le destin avait la décidé de quelque chose concernant notre rencontre.
Ce qui est incroyable, c'est que cet Aziz vous dit « je suis peintre », mais vous pensez que c'est un peintre en bâtiment.
Je pense que c'est un peintre en bâtiment, puisqu'on avait coutume en effet de donner ce genre de, enfin peut-être encore, je ne sais pas, peut-être un peu moins, mais ce genre de travail aux gens qui venaient d'Algérie, c'était le bâtiment, c'était la peinture. Je croyais qu'il était peintre. En effet, il s'intéressait à la peinture, mais pas la même.
Oui. Et il fait des recherches sur un peintre.
Il fait des recherches.
Et c'est comme ça qu'il vous apprend qu'une figure emblématique de la culture algérienne, qui est née à Sétif, premier prix de Rome, qui s'appelle donc Émile Aubry. C'est lui qui vous apprend que cet Émile Aubry est enterré dans Lyon, dans le petit cimetière de Voutenay-sur-Cure.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que c'est incroyable, c'est-à-dire que le peintre Émile Aubry en question, donc né à Sétif, en fait est très honoré en Algérie, l'était sans doute un peu moins. Maintenant, je ne peux pas dire aujourd'hui, car j'ai perdu de vue tout de même les réalités de la vie algérienne depuis que je suis parti de là-bas, et puis on n'a pas d'informations très précises sur le sujet. Toujours est-il qu'Émile Aubry était très honoré en Algérie, et notamment avait un musée dans la ville de Bougie, l'ancienne ville de Bougie, Béjaïa aujourd'hui. Donc il était connu en Algérie, j'allais dire plus qu'en France, bien qu'il eût reçu le prix de Rome.
Gérard Calmeton revient dans quelques minutes sur votre livre et sur l'exotisme pictural. Peut-être savez-vous que depuis janvier, nous partageons chaque mercredi sur Radion un coup de cœur en donnant la parole à un professionnel du livre. Et le moment est venu d'accueillir devant notre micro Evelyne Levallois de la librairie L'Autre Monde à Avallon. Alors, quel est le coup de cœur de la semaine? Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous proposer le coup de cœur de la librairie, La griffe du chien, de Dan Winslow, qui est disponible aux éditions Point. Dan Winslow est un auteur assez mal connu en France, vous le connaissez peut-être pour Savage, qui avait été adapté cet hiver au cinéma. Il est assez mal connu parce qu'il a été publié de manière très éparse par plein de maisons d'édition. Là, ce soir, je vais vous parler de son chef-d'œuvre, La griffe du chien. C'est pour tous ceux qui aiment les gros polars, quand je dis gros, je dis 800 pages et plus, pour tous ceux qui ont du temps, et les polars avec une forte dimension politique, économique et géostratégique. Un peu à la Elroy, dans la même veine que American Tabloid et toute la trilogie Underworld USA. Le personnage principal s'appelle Art Keller, c'est un agent fédéral, et il est là pour faire la guerre aux narcotrafiquants qui, depuis le Mexique, inondent les États-Unis de drogue. Il est prêt à tout, il va même basculer un peu du mauvais côté, donc on a comme ça un personnage un peu duel. Voilà. Il veut faire tomber cette famille mafieuse à la tête du cartel qui inonde les États-Unis, et pour ça, il va y mettre tous les moyens. Dans ce grand roman de l'Amérique et du Mexique, on va croiser, premièrement, des trafiquants, évidemment, des agents fédéraux aussi, des révolutionnaires de tout poil, des prostituées de luxe, des évêques, avec toute cette théorie de la théologie de la libération. Voilà, quelque chose qu'on connaît assez mal et qui est assez propre au pays du Sud. Voilà. Bref, un roman très très épais qui nous raconte 50 ans de l'histoire des États-Unis et de l'Amérique latine, les relations entre ces deux sous-continents, la guerre et aussi la dimension politique entre les deux. Voilà. La griffe du chien fait évidemment beaucoup penser, je l'ai dit tout à l'heure, à la trilogie Underworld USA d'Elroy. C'était donc La griffe du chien de Dan Winslow aux éditions Point, format poche. Merci.
Merci Evelyne pour ce coup de cœur que l'on retrouve prochainement sur la page Facebook de l'émission Wagon Livre Yannick Petit et dans quelques jours sur Internet, notamment sur le podcast de notre rendez-vous littéraire. C'est bien évidemment sur le site de Radion. On retrouve notre invité dans quelques minutes. Gérard Calmette est avec nous jusqu'à 22h pour Kader Aziz Aubry de Vézelay à Béjaïa, ouvrage disponible aux éditions de l'Armançon. Place tout de suite à la chanson. Voici l'Algérie, interprétée par Serge Lama, une chanson de circonstance soufflée par notre invité. Bonne soirée sur Radion.
Dans ce port, nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère, il faisait presque beau. C'était la première fois que je prenais le bateau. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Au balcon, séché draps et serviettes, comme en Italie. On prenait de vieux trains à banquette, on était mal assis. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Ce n'était pas un port à faire du mélo. Et pourtant, je vous jure que j'avais le cœur gros. Quand ils ont vu le quai s'éloigner, s'éloigner, y en a qui n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Nos fiancés nous écrivaient des lettres avec des mots menteurs. Le soir, on grillait des cigarettes afin d'avoir moins peur. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays. Un port, ce n'est qu'un port, mais dans mes souvenirs, certains soirs, malgré moi, je me vois revenir sur le pont délavé de ce bateau prison. Quand Alger m'a souri au bout de l'horizon. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure. C'était paradis, jouer les petits soldats. Un bon jour, je raconterai l'histoire à mes petits-enfants du voyage où notre seule gloire, c'était d'avoir 20 ans. L'Algérie, avec ou sans fusil, ça reste un beau pays.
On se retrouve devant les micros de l'émission littéraire de Radion Wagon Livre ce soir, émission au cours de laquelle nous parlons du dernier ouvrage de Gérard Calmette, Kader Aziz Aubry de Vézelay à Béjaïa, paru aux éditions de l'Armançon, paru en 2012, ouvrage toujours disponible auprès de vos libraires. Alors on a bien compris, Gérard Calmette, qu'Émile Aubry était un pied noir, né donc à Sétif, et alors où se trouve essentiellement maintenant la peinture d'Aubry ? En Algérie ? Sait-on où l'on peut voir les peintures d'Émile Aubry ?
Écoutez, je ne peux pas vous le dire avec précision. Je crois qu'il y a en France, mais de très peu de lieux, il en existe, je crois quand même, où l'on peut voir les peintures d'Aubry, mais je ne pourrais pas ça vous le préciser. Je ne peux pas vous le préciser.
En tout cas, tout ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que Émile Aubry est bien un des représentants de l'orientalisme pictural.
Oui.
Alors,
oui.
Évidemment, lorsqu'on regarde la couverture de votre livre, il y a une très très belle peinture d'Aubry oui. qui mmh. y est reproduite et qui s'intitule Le Soir. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu la décrire, Gérald Calmette
oui.
Et qu'est-ce qu'elle vous inspire? Et est-ce que, pour vous, elle vous rappelle les paysages algériens que vous avez vus lorsque vous étiez appelé du contingent?
Elle me rappelle en effet tout à fait les paysages algériens que j'ai connus. Et je dois dire, c'est une peinture Il faut dire qu'à l'époque, on continuait encore, même du temps d'Émile Aubry, on continuait encore à fantasmer un peu sur l'Orient d'une manière générale, et sur les paysages orientaux, et pas seulement sur les paysages orientaux, mais aussi sur, disons, sur les harems, sur les femmes, sur les bijoux, sur toutes les productions algériennes, et sur le climat, et sur le soleil, etc. Et c'était devenu, en quelque sorte, enfin je parle ça davantage au début du siècle, dans les années 1910, une mode, en quelque sorte, une mode qui permettait sans doute aux gens, qui ressentaient le besoin, les gens à l'époque en métropole ressentaient le besoin, et ont été charmés par ces productions, qui étaient faites en général par des Européens d'ailleurs, des reproductions de scènes algériennes. Et pourquoi ? Parce que ça rompait sans doute déjà avec le train-train occidental et ça faisait fantasmer les foules. Mmh. Et donc je pense que voilà un tableau qui permet en effet de rêver, de fantasmer. On voit donc des animaux qui sont un petit troupeau comme ça qui erre à travers les montagnes, conduite par un berger arabe en tenue. C'est quelque chose d'assez remarquable, moi qui me rappelle en effet des souvenirs de ce pays que j'ai parcouru, que j'ai beaucoup aimé et dans lequel j'aimerais bien retourner d'ailleurs.
Alors, malheureusement, la manière dont vous vous rendez en Algérie, c'est sur un transport de troupes.
Oui.
Qui s'appelle, je crois...
Il s'appelait Pasteur.
Le Pasteur.
C'était paradoxal, oui, Pasteur.
Et alors, ça a été une épreuve, cette traversée de la Méditerranée, pour arriver jusqu'en Algérie, Alger, je crois.
Oui. Mais je dois dire, puisque vous citiez le nom, c'est quand même paradoxal de voir un transport de troupes s'appeler Pasteur, je trouve. C'est pour le bien de l'humanité, Pasteur, l'œuvre de Pasteur. Bon, ça, c'est une parenthèse, en effet. En effet, on avait embarqué, enfin, on avait, parce qu'on était tous... Un nombre important de soldats transportés par ce bateau.
Bien vous sûr. Aviez 21 ans.
J'avais 20 ans.
Oui.
J'avais 20 ans. Passé, un peu passé.
Alors cette traversée dans des conditions terribles.
Bah, cette traversée, c'est-à-dire les conditions de traversée. Non, c'est pas ça. C'est que bon, on allait au devant de l'inconnu. Vous êtes, sortais de la vie civile. La veille, j'étais avec des camarades, peut-être avec des filles, enfin dans Paris, etc. On avait une vie relativement agréable, bien sûr, même plutôt agréable. Et puis du jour au lendemain, on se trouvait ballotté sur la mer, dans des conditions épouvantables. Pourquoi ? Parce qu'on était dans les cales du bateau. Donc dans ces cales, ça veut dire qu'on était secoué. Certains, on va pas rentrer dans les détails, vomissaient, etc. Enfin bref. On n'avait pratiquement ni à boire, on avait un peu à manger, mais pratiquement pas à boire. Donc on était dans des conditions de traversée tout à fait désagréables, épouvantables même. Et c'est avec un grand ravissement le lendemain qu'on a vu se détacher la côte algérienne et qu'on a vu la ville d'Alger se dessiner à l'horizon, blanche, superbe, éclatante. Et on était content de poser le premier pied sur ce sol après une traversée, comme je vous le dis, qui était quand même relativement épouvantable. Et là, on était tout de suite pris en main, bien entendu. Donc le petit Parisien qui arrivait, qui sortait de sa vie civile tranquille, était pris en main par les militaires, aussitôt. Et d'Alger, aussitôt, nous voilà embarqués sur des camions. Moi, en ce qui me concerne, à Hussendey, qui est devenu aujourd'hui, enfin, de Maison Carrée, qui est devenu à l'arrache, enfin, c'est pas très loin d'Alger. On prenait une route qui s'appelait la route moutonnière, que tous les anciens d'Algérie de cette région ont bien connue, cette route moutonnière qui longe la côte algérienne jusqu'à El Arache, donc est là. Très exactement avant d'arriver à El Arache, on était à Hussendey, et là, nous quittions l'habit civil pour l'uniforme. Donc. Et nous voilà bottés, sanglés, etc., et transportés à quelques kilomètres. Moi, c'était à Maison Carrée, dans le régiment qui m'accueillait, si je puis dire. Et on était tout de suite soumis au rythme militaire parce que les événements étaient graves en Algérie, il y avait des attentats tous les jours, donc on ne prenait pas de précautions, il fallait tout de suite qu'on se mette au travail, et le travail c'était quelque chose qui n'était pas très beau à voir. Enfin, au début, on nous met un fusil dans les mains, et on nous apprend une chose, parce que l'urgence était l'intervention des soldats à Alger pour maintenir l'ordre, on n'était pas loin d'Alger, Hussendey. Donc l'urgence voulait que nous ne sachions pas même tirer un coup de fusil. Donc on nous distribuait des fusils et on nous apprenait à mettre la baïonnette au bout de ce fusil. Voilà ce que nous savions faire au bout de 3 jours d'armée. Et aussitôt, nous voilà envoyés pour le maintien de l'ordre, c'est-à-dire, vous voyez, ce que ça peut représenter, un petit civil qui arrive, 4 jours avant, il est avec ses copains dans Paris, il se retrouve avec un MAS 36, un vieux fusil qui remonte à Mathusalem, avec la baïonnette au bout, versé chacun dans un autobus, dans un autocar, etc., au coin de la rue.
Et vous faisiez du filtrage de passagers?
Oui, on était...
Fallait leur demander aux gens d'ouvrir un peu leur bagage.
Ceux qui avaient des bagages. Oui.
Et vous vous souvenez de ce vieillard qui refusait d'ouvrir son sac?
Bah oui, une fois notamment, parce qu'on était chargé, si quelqu'un ne voulait pas ouvrir son sac, il fallait lui piquer les fesses. C'était la baïonnette était faite pour ça, quoi. Mais en général, d'ailleurs, les gens s'exécutaient, bien entendu, ils le savaient, hein, quand même. Mais une fois, donc, je suis tombé sur un très vieil homme, un arabe, donc, qui portait un sac. Et qui avait refusé de ouvrir son sac, et quand même, j'ai dû le menacer sans, heureusement, utiliser quand même l'arme qu'on m'avait mise entre les mains. Et il a quand même ouvert son sac, et je dois dire que j'en bougis encore, je sais pas. Il avait une flûte. C'était un musicien, c'était un vieil homme qui, sans doute, se rendait, je ne sais pas où, enfin, avec cette flûte dans son sac. Et ça m'a tout à fait ému à l'époque. J'étais, non, oui, je me serais bien excusé, en quelque sorte. D'ailleurs, je l'ai peut-être bien fait. M'a-t-il compris? J'en sais rien. Il était vieux, il devait parler le français, il aurait compris, mais voilà.
Lorsque vous parlez de l'Algérie, vous écrivez, je vous cite Gérard Calmette, « Une plaie toujours prête à se rouvrir lorsque le vent du sud fait trembler ma mémoire, mais en même temps, comme elle demeure impérissable en moi, l'Algérie, cette belle insoumise de mes 20 ans. » Il y a à la fois cette espèce de peur que vous a inspirée l'activité militaire à laquelle on vous a obligé.
Bien sûr.
Et puis le charme de ce pays, aux beautés et à l'exotisme époustouflant.
Oui, absolument. Et je dois dire que je conserve surtout cette image-là. Bien sûr, comme vous dites, non, mais vous l'avez très bien résumé. Mais en fait, je conserve le souvenir d'un pays que j'ai trouvé très très joli, d'une part. J'ai trouvé un certain charme dans la manière dont les rues aussi sont organisées, les cours, les maisons, etc. Ces femmes arabes qui déambulent sur les marches d'escalier au cœur d'Alger, etc. Enfin, tout un tas de scènes qui me restent très présentes et qui sont très vives à mon esprit dès que je repense à cette Algérie-là, oui, c'est certain.
Alors, exotisme, chaleur, couleur sont au rendez-vous ce soir. On va offrir une nouvelle pause musicale à nos auditeurs, Gérard Calmette, si vous en êtes d'accord.
Ah, bien entendu.
Oh, bah, écoutez, heureusement, d'ailleurs,
avec plaisir.
Sinon, c'était embêtant. Et on va écouter Rachid Taha. Ça date d'il y a quelques années. C'est Yaraya.
I'll show you. Au cœur de la Bourgogne, 90.5.
Nous sommes ce soir avec Gérard Calmette pour son dernier ouvrage Kader Aziz Aubry, de Vézelay à Béjaïa, disponible aux éditions de l'Armançon. Gérard Calmette, vous êtes donc de 57, c'est 27 mois d'armée, hein, 57 à 59
27 mois, oui, oui. 56.
56
à fin 58, oui.
Vous êtes donc sous les drapeaux, en uniforme, pour des opérations de maintien de l'ordre.
Oui,
on ne parlait pas de guerre d'Algérie.
Oui, oui, c'en était une pourtant. Mais enfin.
Vous découvrez le Maghreb, et finalement c'est aussi pour vous la proximité avec un grand-père qui avait fait son service militaire, mais lui,
oui,
en Tunisie.
En Tunisie, oui, il avait fait son service militaire en Tunisie, et quand j'étais gamin, que j'allais voir mon grand-père, il adorait, comme tous les grands-pères, raconter ses histoires anciennes, donc, et notamment son périple en Tunisie. Mais mon grand-père, je le dis dans le livre, était de méditerranéen, il était du Tarn. On avait parlé comme ça, d'ailleurs, à la Saint. Et il m'inculquait le patois, que je connais un peu, le patois du Tarn. Du Tarn, il disait, pas du Tarn, du Tarn. Et en même temps, il essayait de m'enseigner un petit peu de l'alphabet arabe, me faire compter en arabe. Et pas, donc ça m'amusait, en même temps j'étais gamin. Et mon grand-père, en effet, avait parcouru la Tunisie. Alors je n'ai jamais su exactement combien de temps il avait parcouru cette Tunisie, puisque mon grand-père étant du Midi, il avait tendance souvent à en rajouter, pour le plaisir sans doute de narrer encore, je ne sais pas finalement s'il avait bien visité Boufari, Tataouin, Fès, Mekdé, Fès, je ne sais pas. Que dis-je? Oui, je suis bien en Tunisie, non?
Tunisie.
Et donc, non mais parce que je parlais du Maroc. Alors, voilà, donc ce grand-père était quelqu'un qui était haut en figure. Certaines traditions familiales voulaient bien dire qu'il avait sans doute des origines turques, ce qui me ramènerait en effet moi aussi dans un orientalisme très ancien sans doute. Et voilà pourquoi ce grand-père, pour moi aussi, est une des figures qui me fait songer à l'Algérie. Et alors, d'autant que, quand je regarde les photos de mon grand-père, c'est le portrait craché de Mahmoud Abbas. Et ça, c'était à chaque fois que je vois Mahmoud Abbas à la télévision, on dit, tiens, voilà Pépé qui surgit.
Alors ça, c'est incroyable, parce que votre grand-père a une ressemblance avec,
oui,
donc, ce dirigeant palestinien Mahmoud Abbas,
oui,
et votre père, vieillissant, ressemblait comme deux gouttes d'eau à Jean Giono.
Et mon père ressemblait à Jean Giono, et ça, vous avez raison, mais si nous l'avions dit, ça, en effet, nous en avions parlé, ça, quand nous avions parlé de mon livre, Jean Giono. Oui, mon père ressemblait, comme de Giono. Alors, de là, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que Giono était d'origine turque? Je ne le crois pas, j'ai jamais eu l'occasion de le vérifier.
Votre père avait, lui aussi, tout de même, foulé le sol maghrébin?
Absolument.
Donc, il y a aussi une continuité, ce livre,
oui,
c'est un petit peu un retour aux origines, quand même.
Oui, c'est assez curieux, mais enfin, je ne vois pas particulièrement, mais enfin, quand même, un petit peu, tout de même, mon père aussi avait fait une partie de l'Algérie, et puis le Maroc aussi, oui. Oui, c'est troublant. Mais vous savez, comme dit toujours, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le destin. Sans doute, le destin nous est-il engagé?
Vous y croyez, vous, au destin? Tout est écrit, alors?
À mon avis, tout est écrit. Nous ne sommes pas capables d'écrire grand-chose, si vous voulez qu'on écrive.
Il n'y a pas de place au hasard dans votre vie?
Mais le hasard, non, je n'y crois pas. Je ne crois pas au hasard. La preuve, c'est que, je pense, ce n'est pas le hasard qui m'a fait rencontrer Aziz, ce n'est pas le hasard qui m'a fait découvrir Aubry, etc. Je pense pas que ce soit le hasard. Je pense que, étant donné que peut-être cette ascendance dont vous parlez, ou bien le fait que j'ai été en Algérie, en même temps, s'inscrit le fait que je rencontre ces gens-là. Je pense que tout est écrit d'avance. Enfin, c'est mon sentiment. Bien sûr, je peux pas le démontrer, mais l'inverse non plus, on ne peut pas le démontrer. Donc,
le poète Paul Éluard,
oui,
disait Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous.
Que des rendez-vous?
Oui.
Oui, mais alors ces rendez-vous...
Alors par exemple, sur la ligne 47, là vous aviez rendez-vous avec Aziz.
J'avais rendez-vous, mais oui, donc c'est pas par hasard. C'était inscrit, si tu devais. Ça devait être inscrit. D'ailleurs, nous attendions ensemble, sans se connaître du tout, l'autobus 47 avec Aziz. On l'attendait. Et puis on s'est mis l'un en face de l'autre, tout à fait. D'ailleurs, par hasard, non, le destin nous a dit, tu vas te mettre en face d'Aziz. Et puis, tu sens, où il a dit à Aziz, tu vas te mettre en face de Gérard Calmette, je ne sais pas. Bref.
Aziz, Gérard Calmette, oui. L'amitié
oui.
Entre vous deux,
oui.
C'est une image de la réconciliation franco-algérienne.
C'est une image d'une réconciliation qui devrait, en effet...
Qui n'est malheureusement pas unanime. Même encore 50 ans après.
Qui n'est pas unanime.
Est-ce oui. que les Algériens de votre génération, Gérard Calmette, est-ce oui. que vous pensez qu'ils ont un peu oublié la présence coloniale de la France en Algérie?
Non, ceux de mon âge, disons moi, qui a quand même plus de 70 ans, il faut le dire, parce que ces gens-là se rappellent bien entendu de la présence française en Algérie, je pense même qu'ils se rappellent de la guerre livrée contre la France, en fait, etc., mais bien entendu, hein. Oui. Ça me paraît évident. Donc là, ce n'est pas une raison pour que la réconciliation, si l'on veut bien parler d'indépendance justement, ce n'est pas une raison pour que cette réconciliation n'ait pas lieu, ne se développe pas, à condition... J'en reviens toujours à mon idée fixe d'indépendance. Si l'État algérien, et c'est le cas, est indépendant, si l'État français est indépendant, on peut par-dessus la Méditerranée se serrer la patte très vigoureusement et faire des échanges culturels, etc. À mon avis, il n'y a aucun problème, condition que l'un n'essaye pas de profiter de l'occasion pour tirer un intérêt quelconque, bon, ou que la finance, alors n'en parlons pas, entre dans le jeu, enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Et Aziz, qu'est devenu Aziz? Il est toujours de ce monde?
Ah, Aziz est toujours de ce monde, à ma connaissance. On s'est un petit peu perdu de lui, mais enfin bon, Aziz est toujours, bien sûr, je pense que je serais au courant si Aziz avait disparu.
Donc, Aziz, c'est le musulman non pratiquant et Gérard Calmette, le catholique non pratiquant?
Catholique non pratiquant. Deux non pratiquants, donc bien fait pour s'entendre aussi, mais enfin, et on peut être pratiquant et s'entendre aussi, bien entendu. Mais justement, ça m'amène ça, à réfléchir à ce que, au sens que l'on peut donner, à la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que finalement un musulman, et par rapport à, je sais pas, à un Français. Et pour les deux ont une religion, mais nous, est-ce que nous la pratiquons toujours? Plus tellement. Je crois savoir que les églises sont relativement souvent vides. Et ça n'empêche peut-être pas de croire en Dieu, mais sans trop le manifester. Et je crois que en Algérie notamment, l'islam, bien sûr, a conservé sa place, et que de ce fait, les gens, les Algériens, donc, demeurent près de ce Dieu, Allah, ils demeurent près de ce Dieu qui donne de bonnes directions à la vie, n'est-ce pas? J'allais penser peut-être que je vais changer de religion, et non, mais...
Mais vous écrivez.
Oui.
Je vous prie de m'excuser, Gérard
oui.
Calmette, je vous interromps. Mais c'est l'occasion de vous citer. Vous
oui.
écrivez, en Occident, l'homme a tué Dieu, en terre d'islam, il continue de le prier.
C'est absolument.
Ce que,
bon,
c'est ce que
absolument.
Vous venez d'expliquer.
Oui.
Et vous dénoncez, là on retrouve,
oui.
J'allais dire, presque le leitmotiv intellectuel, quasi-politique ou idéologique de Gérard Calmette, vous
oui.
dénoncez cette dérive du progrès dans le monde
oui,
occidental.
Oui,
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 ça, c'est, on est d'accord,
oui,
c'est un
oui.
peu le leitmotiv intellectuel de Gérard Calmette,
oui,
la dénonciation du progrès
oui,
dont on mesure oui, mal les conséquences.
Oui, oui, absolument.
D'un certain progrès.
Pourquoi? Parce que je pense que dans la mentalité occidentale, n'est-ce pas, tout sera mieux demain qu'aujourd'hui. Ce sera mieux demain qu'aujourd'hui. Voilà un occidental. Aujourd'hui, c'est mieux qu'hier. On n'arrête pas de nous le dire. On nous met des machines entre les mains. Regarde, c'est mieux aujourd'hui qu'hier. Et alors demain, n'en parlons pas. Ce sera merveilleux. Bon, on oublie les 600 000 jeunes au chômage. C'est une autre paire de manches. Et puis, par contre, je veux dire, au Maghreb en général, et en Algérie en particulier, on considère que hier, c'était hier, disons, et aujourd'hui, on va... changer peut-être un petit peu, parce que tout de même, on est en 2013, donc on va changer un petit peu nos habitudes, peut-être même pas mal nos habitudes, mais pas trop quand même, on va maintenir l'essentiel. Et puis demain, on va évoluer encore un petit peu, mais pas trop vite, surtout pas trop vite, parce que finalement, hier, c'était pas si mal, la preuve. on avait des valeurs morales, on éduquait bien nos enfants, on respectait les vieux, on pratiquait l'hospitalité, des choses qu'on n'oublie pas, on va essayer de les conserver pour aujourd'hui, on va même essayer encore de les repousser à demain, pour que ceux de demain encore continuent, en effet, à trouver bien l'hospitalité. Vous savez quoi, en Algérie, si vous n'avez pas de quoi coucher ce soir, vous frappez une porte, on vous logera comme on le pourra, et on vous donnera à boire ou à manger rapidement peut-être, mais vous ne serez pas, la porte ne restera pas fermée. Bon, voilà des choses qui sont quand même intéressantes à savoir pour un occidental.
Vous croyez que c'est toujours le cas ?
Alors, je ne peux pas certifier que c'est toujours le cas. C'était le cas, disons, il y a 50 ans, c'est vrai. Est-ce que c'est toujours le cas ? Je ne peux pas le préciser. Mais enfin, en tout cas, c'est dans la mentalité arabe de préserver ce qui nous vient du passé, les traditions, comme je le disais, la langue. La langue aussi.
Oui, on en reparlera, effectivement, oui. De cette défense de la langue.
C'est très important.
On fait une nouvelle petite escale avec une pause musicale. On va écouter aux phrases. C'était un grand succès des années 88. C'était une chanteuse d'origine juive, mais d'origine yéménite. C'est un titre qui date de 1988. Elle est morte d'ailleurs du sida. J'ai appris ça. Elle est morte en 2000 du sida. Et elle nous chante Imnin Alou. On se retrouve dans quelques minutes avec Gérard Calmette, notre invité, pour parler de Kader Aziz Aubry de Vézelay à Béjaïa, disponible aux éditions de l'Armand. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous écoutez l'émission Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale 90.5 ou alors en direct par internet sur le www.radion.fr. Et si vous avez manqué le début de cette émission, vous la retrouverez d'ici quelques jours en podcast sur le site internet de Radion. Nous sommes ce soir en compagnie de Gérard Calmette pour Kader Aziz Aubry de Vézelay à Béjaïa, ouvrage paru l'an passé aux éditions de l'Armançon, ouvrage toujours disponible, qui revient sur l'histoire aussi, l'histoire d'amitié, mais aussi l'histoire de la présence française en Algérie. Alors Gérard Calmette, peut-être n'est-il pas superflu de rappeler comment la France a pris possession de l'Algérie. Très rapidement, l'Algérie est constituée de trois départements français.
Oui, elle a été constituée en effet de trois départements français qui étaient ceux d'Alger, d'Oran, de Constantine. Et ces trois départements étant donc peuplés par des Européens, par des musulmans, aussi par des juifs, enfin un peu dans le. Mais ce qui est intéressant à mon avis de rappeler, c'est qu'il ne s'était pas agi au départ d'une colonisation telle qu'on l'entend, c'est-à-dire le mot colonisation n'est pas a priori un mot très dramatique. Or, en fait, il faut voir que cette colonisation s'est faite par les armes. Ça a été une conquête française de l'Algérie. Et ça, on l'oublie parfois, en tout cas de grands hommes, et moi je m'en réfère souvent à mon grand Lamartine, ce vieux poète disparu. Mais Lamartine, n'est-ce pas, qui était en même temps un homme politique et qui a été un des artisans de la révolution de 1848 en France, a ensuite une vie parlementaire extrêmement riche qui lui a. Ça a été l'occasion pour lui d'écrire plusieurs volumes, une dizaine de volumes sur la vie parlementaire française. Et Lamartine, là, rapporte notamment des propos tenus à l'époque, à chaud donc, après la conquête de 1830, des propos qui ont été prononcés à l'Assemblée nationale par des généraux qui avaient donc participé à cette conquête de l'Algérie. Et Lamartine rapporte donc les propos tenus par ces généraux. Par exemple, l'un rapporte « Je pénétrerai, disait-il aux Arabes, je pénétrerai dans vos montagnes, je brûlerai vos moissons, je couperai vos arbres fruitiers. » Voilà un ordre donné par ce général à ses troupes, et il s'adresse aux Arabes en leur disant « Voilà ce que nous allons faire. » D'autre part, un autre officier général, rapporte Lamartine, s'exprime de cette manière à l'Assemblée nationale en rapportant donc ses souvenirs. « Chacune de nos colonnes, ravageant dans sa marche tous les villages ou réunions de tentes qu'elle rencontrait, portait la désolation dans le pays. Aucun homme ne fut épargné. Les femmes furent prises, les troupeaux enlevés, les silos vidés, et le feu brûla tout ce qui ne parvint pas à s'échapper. » Voilà des propos extrêmement lourds, rapportés par Lamartine, et il y en a beaucoup d'autres qui ont été prononcés de cette manière à l'Assemblée nationale, et qui témoignaient de la manière justement dramatique dont on avait procédé pour conquérir ces terres-là. Donc il est difficile aujourd'hui d'aborder ces aspects de l'histoire. Il n'est pas question de là de dire « on va faire de la repentance », ça ne veut sans doute pas dire grand chose aujourd'hui, il y a cela, je ne sais pas combien aujourd'hui, ça fait plus de.
Plus de 200 ans.
Mais non, 1830. Ça fait à peine 200 ans.
Un peu moins de 200 ans.
En 2013, oui. Donc ça fait à peine 200 ans, en effet. Ça fait à peine 200 ans, mais tout de même, bon, on ne doit pas remonter non plus à Charles Martel et à la conquête faite de l'Espagne par les Arabes, etc. On ne va pas remonter à tout ça, on ne va donc pas parler de repentance. Simplement, faut-il bien se souvenir que cette terre a été conquise et non pas colonisée. D'ailleurs, on ne pouvait pas la coloniser. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'État algérien. Donc on ne peut pas coloniser un pays qui était entre les mains de tribus. Il y avait des Kabyles, il y avait des Arabes. Et, bon, et donc il n'était pas question de pouvoir procéder à une colonisation. Donc c'était une conquête et on a arraché les sols. Et en effet, les Arabes cultivaient leur sol, n'est-ce pas ? Chacun avait son petit bout de terrain, pas trop grand, où chacun cultivait ses petits légumes, etc. D'ailleurs, on pensait à son voisin s'il en manquait, etc. La vie arabe s'organisait de cette manière-là, et ces sols ont été conquis de force, arrachés de force aux Arabes, pour être remis entre les mains des colonisateurs qui arrivaient de métropole. les pères des fameux pieds noirs, tels qu'on les entend aujourd'hui, ces pieds noirs qui ont eu la douleur à leur tour de devoir quitter l'Algérie dans des conditions épouvantables, et arrivant en France, d'être non pas mal accueillis, mais pas accueillis du tout, puisqu'il y avait peu d'endroits où les recevoir dignement. Donc c'est ces pieds noirs qui étaient les arrière-petits-fils de ces conquérants de 1830, ont eu beaucoup de chagrin de quitter leur sol, mais en même temps, leurs ancêtres, n'est-ce pas, y étaient venus avec l'appui des armes. Et ça, voilà le boulet que l'on traîne quand on pense à l'histoire qui s'est tissée entre l'Algérie et la France.
Et puis, il y a vraisemblablement eu des maladresses de la France, notamment à un moment, vous me l'expliquiez, à un moment, un général de l'armée française a reconnu comme citoyen français les juifs d'Algérie, ce qui n'a pas été le cas pour les Arabes que l'on appelait les indigènes.
Ah oui, alors ça, c'était un membre du gouvernement, c'était c'était en 1870, c'est Albert Crémieux, donc dont le vrai nom, je vais vous le dire, allons-y avec lui, Adolphe Crémieux a décidé à l'époque que, puisque la France était partagée en trois départements, donc comme j'ai dit, Oran, Constantine et Alger, que les métropolitains, bien entendu, les métropolitains, ceux qui venaient donc de la métropole, qui étaient des pieds noirs, disons, de l'époque, les métropolitains établis en Algérie, c'était non seulement ils venaient de métropole, mais aussi bien d'ailleurs, il y en a qui venaient un peu de tous les pays, plutôt moins d'Europe, et donc ces gens-là avaient bien entendu la nationalité française. Et par ailleurs, ce Crémieux a dit, les Juifs d'Algérie auront eux aussi la nationalité française. Et ce Adolphe Crémieux se prénommait Moïse, et son nom c'était Isaac. Je ne vais pas aller plus loin. Simplement, il a donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie, mais l'a refusé aux musulmans. Et ceci est quelque chose qui a entraîné, bien sûr, une haine pratiquement, espérons qu'elle ne soit pas éternelle, mais une haine très longue des Arabes envers les Juifs en Algérie. Et ça peut se comprendre, dans le fond.
Alors quel regard portez-vous sur les printemps arabes? Un regard sévère.
J'ai l'air sévère sur les printemps arabes, mais non, mais c'est-à-dire la notion de printemps, a priori, c'est quelque chose de souriant. Mais on voit d'ailleurs qu'après le printemps, il y a eu des étés, puis maintenant des hivers qui ont l'air assez rigoureux. Si l'on veut bien regarder la Tunisie, l'Égypte, et puis bon. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est une considération tout à fait personnelle. Je pense que l'Occident avait déjà mis assez largement sa main sur le Sahel en général, et puis même sur d'autres pays, l'Afrique notamment, depuis même en Asie, etc., et que la puissance occidentale se veut sans limite. Et je pense qu'il s'agissait, à mon avis, pour l'Occident, d'aider à ce que ceux que nous avons appelés parfois des tyrans, n'est-ce pas, laissent la place pour des systèmes plus démocratiques, ce qui, a priori, est quelque chose qui serait relativement sympathique, mais, et en fait, qui permet à l'islam dur d'essayer de prendre le pouvoir dans ces pays-là. Et mon sentiment, c'est que, d'une manière générale, le capitalisme, disons l'Occident, capitalisme occidental, ne verrait pas du tout d'un mauvais œil, et là j'enchaîne un petit peu sur autre chose, le fait que des populations venant de ces pays et s'établissant en Europe, sur le plan commercial, sur le plan financier, serait bien vu de l'Occident capitaliste. Je pense que, pour aller très loin, si la France était peuplée, et puis l'Allemagne aussi, et puis le Pilcali, de beaucoup de gens venant des pays d'Afrique, ce serait autant de consommateurs supplémentaires, à moins qu'ils ne parviennent à instaurer, plus ou moins par la force, des systèmes démocratiques, les printemps arabes seraient peut-être à l'origine, dans ces pays-là, des systèmes qui deviendraient des systèmes capitalistes, etc. Donc les printemps arabes, j'y crois pas beaucoup. Personnellement, je vois là-dedans la mainmise de l'Occident. Mais peut-être ai-je tort, c'est un point de vue personnel.
En tout cas, à travers ce Kader Aziz Aubry de Vézelay à Béjaïa, c'est l'occasion de rappeler que l'amitié est possible entre un Français et des Algériens.
Bien sûr.
D'une part. D'autre part, c'est aussi Gérard Calmette qui dénonce une époque cadenassée par la mondialisation et qui nous dit, attention, avec le rythme de vie moderne qui est le nôtre, conservons nos valeurs, notre belle langue aussi, arrêtons le franglais, arrêtons l'anglicisation de notre langue. On ne va pas pouvoir en parler trop longuement. Un rapide mot sur la défense de la langue française, Gérard Calmette.
Sur la défense de la langue française, je suis malheureusement tout à fait outré de voir que dans nos écoles, par exemple, il semblerait que l'on prenne de plus en plus mal le français parce qu'on ne fait pas lire la langue française dans les textes aux enfants. Je ne pense pas non plus que ce soit la mise à disposition des ordinateurs dans les écoles qui leur permettent de progresser beaucoup dans ce domaine-là. Et je pense aussi que, vous en parliez à l'instant, que l'anglais est une des menaces pour notre langue, puisque pratiquement maintenant tous les Français s'amusent à baragouiner quelques mots moitié anglais, moitié français. Je crois donc que nous avons intérêt à nous ressaisir pour défendre notre langue française, qui était tout de même... Alors, il y a bien sûr la francophonie, heureusement. Il y a la francophonie dans le monde, donc, paraît-il, qui progresse à pas de géant, et donc ce sera peut-être pour nous l'occasion de voir notre langue française défendue par des pays outre-mer.
Et puis d'ailleurs, on terminera, et vous l'écrivez dans votre livre, des livres écrits en français, cette langue que Kateb Yassine considérait être, non sans un certain humour, un butin de guerre. C'est dans Kader Aziz Aubry de Vézelay à Béjaïa, sous la plume de Gérard Calmette, que nous avons eu plaisir à recevoir une fois de plus devant le micro de Wagon Livre sur Radio, et c'est un ouvrage disponible aux éditions de l'Armançon. Merci Gérard Calmette.
Merci aussi, le plaisir était partagé de vous dire.
Merci Gérard Calmette, bonsoir.
Bonsoir.